Bonjour, bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission de radio tout en français sur Mix 92.6 avec Aline Bavister et Elise Lyne.
Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres sur le site mix926.com et sur vos plateformes de podcast habituelles.
Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille et sur Instagram Bouche à Oreille UK.
Ouvrez vos oreilles! En cette semaine mondiale de la langue française et de la francophonie, notre expert en littérature Pierre Connet a réuni sous notre toit virtuel trois acteurs de notre belle langue basée en Belgique et en Suisse. Ils vont partager avec nous leur vision de la francophonie. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Aline, bonsoir Élise, bonsoir les auditrices et les auditeurs francophones et francophiles.
Alors présentez-nous les invités de ce soir.
Alors, les invités de ce soir, on a d'abord Philippe Rémy Wittgen. Alors, il est belge, vous en avez entendu parler il y a quelques mois déjà, avec notamment Les Sœurs Noires, un polar qui se passe à Tournai. Vous avez entendu parler de Hans Bruxelles, qui se passe évidemment à Bruxelles. D'accord, bon, on est pendant la guerre. Ensuite, j'ai un autre belge, toujours depuis Bruxelles, qui s'appelle Vincent Engel. Alors lui, il est docteur en philologie romane, prof de littérature contemporaine à l'Université catholique de Louvain et d'histoire contemporaine à l'IHESS. Il est romancier, dramaturge, critique littéraire. Et pour nos amis qui ne sont pas familiarisés avec la langue française, eh bien, ça veut dire qu'il écrit des pièces de théâtre. Ensuite, nous avons un romancier dont vous avez entendu parler. Il est tchadien. Il vit en Suisse, il s'appelle Netonon Noël Djekeri, et vous vous en souvenez certainement, il avait écrit et on avait présenté « Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis ».
Fantastique, merci Pierre. Alors, bienvenue à tous nos invités ce soir. C'est un plaisir de vous recevoir sous notre studio virtuel. Vincent Engel, vous êtes en liaison avec nous depuis Bruxelles. Donc, comme Pierre le disait, vous êtes docteur en philologie romane, professeur de littérature contemporaine à l'Université catholique de Louvain, et vous êtes également professeur d'histoire contemporaine à l'IHECS, donc c'est l'Institut des hautes études des communications sociales. Mais vous êtes également romancier, dramaturge et critique littéraire. Bonsoir Vincent.
Bonsoir.
Alors, en tant qu'expert, on ne pouvait pas s'adresser à quelqu'un d'autre, vraiment, et praticien de langue française, pourriez-vous nous dire ce que revêt pour vous la francophonie ?
La francophonie est un espace culturel qui est assez extraordinaire, d'abord parce que, même si nous parlons tous la même langue, nous partageons une approche très riche de ces langues. La francophonie, c'est un vivier de singularité, de richesse, et c'est un espace qui est heureusement en train de se libérer d'une emprise française, franco-française, qui a très longtemps considéré la francophonie comme étant son terrain de chasse, comme étant le reliquat ou la continuité de l'Empire français. On est en train de s'en guérir, et parce que vous savez que pour les Français, la francophonie, c'est tous ces pays qui parlent français, sauf la France. Moi, j'ai une approche de la francophonie qui est différente. Je dis que la France fait aussi partie de la francophonie. Et c'est toute cette richesse, ces auteurs incroyables qui doivent avoir la possibilité de s'exprimer et de publier sans subir les filtres qu'impose souvent l'édition française, l'édition parisienne, où on veut bien avoir un Africain ou un Québécois ou un Suisse, mais il faut quand même que ce soit un petit peu standardisé et il ne faut pas qu'il y ait pas trop d'originalité. Moi, je ne crois pas à ça. Je pense que c'est ça la richesse de la langue française, c'est d'être capable pour tous les lecteurs et pour tous les auteurs de s'exprimer et de lire cette diversité.
Et justement, vous parliez le monde de l'édition est un peu et en crise. Pierre nous en parle souvent, et la Belgique n'est pas non plus épargnée. Et avec les trois langues officielles, donc je rappelle le français, le néerlandais et l'allemand, Comment, d'après vous, justement, les auteurs francophones tirent-ils leur épingle du jeu ?
Les auteurs francophones belges ne tirent pas du tout leur épingle du jeu. On est toujours dans une réalité économique où il y a une domination de la France, parce que l'appareil industriel de l'édition est en France, les médias principaux sont en France. Mais tout ceci est en train de changer parce que l'édition est en train de traverser une crise et cette crise conduit l'industrie éditoriale française à privilégier de plus en plus des productions extrêmement standardisées dont ils espèrent avoir une rentabilité. C'est la rentabilité qui prime. Et tout ce qui faisait la richesse de la langue française, ses expérimentations, etc., devient de plus en plus difficile à publier à Paris. Donc, je pense qu'il y a aujourd'hui des voies assez royales pour une autre forme d'édition, mais une édition qui doit s'affranchir de beaucoup de choses. Il y a une chaîne du livre qui doit être brisée, et c'est ce que nous mettons en place avec les éditions EDR qu'on lance, qui sont des éditions véritablement francophones.
D'accord, donc ça c'est votre nouveau projet, ces éditions,
oui.
D'accord.
Oui, et les éditions EDR sont dans la continuité d'un autre projet que j'ai repris il y a un peu moins de 2 ans maintenant. C'est une revue qui avait été créée en Belgique il y a très longtemps, qui avait été reprise par Jacques de Decker, qui s'appelle Marginal, qui est une revue dont le principe c'est de parler de l'actualité à travers la fiction. Après le décès de Jacques de Decker, j'ai repris la direction de cette revue en apportant quelques nouveautés, dont la plus importante c'est l'ouverture à la francophonie. Jusqu'à présent, c'était belgo-belge. Et pour moi, s'il fallait reprendre ça, il fallait l'ouvrir à la francophonie. Et en 3 numéros, on a aujourd'hui 140 auteurs et autrices qui viennent du monde entier. Cette revue qui est devenue numérique aussi, elle est sur le site marginal.net, est devenue un vivier d'auteurs assez incroyable et d'une richesse et d'une diversité vraiment, vraiment étonnante.
Fantastique. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces détails. Aline, je te laisse avec Philippe.
Tout à fait. Alors, Philippe, on va le représenter, mais il est quand même un habitué de bouche à oreille. Dernier livre écrit, 11 Bruxelles, La Dame en Blanche, bien sûr. Et puis, nos auditeurs se souviendront aussi des Sœurs Noires, qui était un polar qui se déroulait à Tournai. Et Pierre nous en avait longuement parlé il y a presque un an. Ils s'étaient rencontrés dans un café, il me semble, à Bruxelles, pour en parler. Alors, Philippe, je vais vous poser un petit peu la même question, à savoir la francophonie dans tous ses éclats, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? On rappelle que vous êtes également en Belgique.
En Belgique et dans la même commune que Vincent Hucle, au sud de Bruxelles. Alors, la francophonie, alors si vous regardez la quatrième de couverture de plusieurs de mes livres, on y dit que depuis l'enfant, je suis tiraillé entre des pulsions contradictoires et notamment entre le grand large et l'intimité, la proximité. Et quelque part, la francophonie, c'est un terme médian entre la proximité de notre langue française et quelque part, l'identité belge ou française, puisque la Belgique fait partie, on regarde les mêmes émissions télévisées, etc., un peu du monde français, mais quelque part, c'est intermédiant avec le monde. C'est comme un monde possible, parce qu'il me serait difficile, vu mes limites linguistiques, de pouvoir discuter avec des auteurs que par ailleurs je peux admirer, japonais, anglais, etc. Par contre, pouvoir dialoguer, échanger, par écrit ou des visus avec un auteur d'origine algérienne ou africain, subsaharien, québécois, etc. Comme ça me devient encore plus aisé grâce au projet de Vincent, Marginal ou Edern, auquel je participe, eh bien c'est un vrai enrichissement qui quelque part me renvoie à une attraction, je crois, très profonde. Oui, c'est ça, c'est comme un monde possible. Il y a un terme médian entre le monde et la proximité belge.
D'accord. Donc, on l'a bien compris, Vincent et vous-même, vous avez à cœur de sortir un petit peu du carcan belgo-belge, je crois, c'est ce que vous avez dit auparavant, et d'ouvrir vraiment à la francophonie dans toute son ensemble.
Mais j'allais dire que quand Vincent, à très juste titre, a pointé la centralisation parisienne, qui est une spécificité vraiment française, mais à contrepoint, en Belgique, il y a un effet de ghettoisation où la plupart des éditeurs, avec une petite famille d'auteurs comme un clan autour d'eux, restent très, très enfermés. Et j'étais heureux d'avoir jusqu'ici quand même participé à des projets qui étaient ouverts à d'autres. Samsa publie des auteurs français, Maelstrom, des auteurs du monde entier. Bon, ça existe quand même, mais c'est très minoritaire. Et donc, Ederne, le projet porté par Vincent, va, je crois, apporter une bouffée d'oxygène extraordinaire.
On l'espère et on regardera ça de pas si loin que ça, de l'autre côté de la Manche. Alors, écrire, c'est aussi user d'une langue un peu comme un instrument de musique. Et on était curieuse de savoir si lorsque vous lisez ou relisez un tapuscrit, faites votre choix par rapport au mot juste ou à sa sonorité. Qu'est-ce que vous privilégiez finalement ?
J'ai un handicap, si on peut dire ainsi, qui vient du fait que je suis attiré par les deux faces de l'auteur. Et ce n'est pas toujours conjugué, c'est même pas si souvent que cela conjugué, c'est-à-dire l'art de conter, avoir envie de créer un récit qui captive, qui donne de l'information, de la réflexion, etc. Et à côté de ça, un plaisir de manier la langue. Et donc c'est plus facile qu'on est dans une seule des deux composantes. Il y a de très bons livres qui sont écrits au degré zéro de l'écriture. Je pense à Bernard Werber. Il y a des auteurs qui écrivent admirablement bien au niveau de la langue, la manière d'exprimer un univers, mais qui racontent peu de choses ou souvent la même chose. Je ne citerai pas de nom. Dans mon cas, j'ai une lutte intérieure puisqu'il y a l'envie d'être ferme dans la narration, d'être clair, mais il y a l'attraction de la langue. Alors, dans un premier temps, je me laisse aller, mais je laisse dormir tous mes... Donc, je recherche des beaux mots, un maximum d'informations ou d'épaysement. Je fais plaisir à l'auteur et à celui qui a enquêté sur une série de domaines qui seront les décors du récit. Mais dans un deuxième temps, après avoir laissé dormir ce que je fais pratiquement toujours, 6 mois, 1 an, voire même plus, un tapuscrit, je chasse l'inutile. Et donc, il y a des très beaux mots qui peuvent tomber, ou à contrario, il y a les deux tendances. Il peut y avoir la recherche d'un mot plus juste, qui sonnera mieux. Oh. Mais en général, c'est surtout un travail d'élagage.
D'accord, d'accord. Je vous imagine avec une petite hache, enlever certains mots et en rajouter d'autres.
Ah oui.
Merci beaucoup. Je vais passer la main à Pierre.
Alors, mon cher Noël, d'abord, merci quand même d'être présent pour cette émission en direct. Et donc, je voulais juste te rappeler que l'un de tes deux derniers livres, c'était « Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis ». Ça parlait en fait de la traite négrière, hein, et ça s'étendait sur plusieurs générations. Alors là, aujourd'hui, dans cette, puisqu'on est dans la journée internationale de la langue française, je me vois dans l'obligation de te demander, un, ce que c'est pour toi la francophonie, et surtout que tu nous narres le premier choc que tu as eu avec la langue française. Puisque je rappelle que tu es né au Tchad et ce n'était pas évident d'avoir la langue française comme première langue. Elle fut comme deuxième langue.
La francophonie, pour moi, ce sont tout ce qui puise dans cette boîte à outils qui s'appelle le français et qu'ils utilisent pour composer leur grille de lecture du monde. Et moi, je suis tombé assez jeune dans la langue française. Évidemment, ma mère, donc, le français n'est pas ma langue maternelle. Ma mère parlait donc d'Ambaït, une langue du Tchad. Mais je suis né dans un camp militaire français, donc j'ai eu très tôt, comment dire, je suis tombé dans la langue française. Ma première grande surprise avec le français, ce qui m'a. Le premier grand choc que j'ai eu avec le français, que lorsque je suis arrivé à Paris et en passé la quarantaine, je suis allé à un bureau de poste pour acheter, en fait, pour acheter un timbre de manière à renvoyer à mes amis sur place en Afrique une carte postale. Et je ne sais plus combien étaient les timbres à l'époque destinés à l'Afrique, mais j'ai posé une question du genre « Bonjour madame, est-ce que je peux avoir un timbre de 60 centimes ou je ne sais trop quoi ?» Et la dame, derrière un guichet, me faisait comprendre qu'elle ne comprenait pas ce que je lui disais. J'ai dû m'y reprendre trois fois. Elle n'a toujours pas compris et je lui ai demandé du papier et j'ai écrit ma question. Hein. Et à ce moment-là, elle a ouvert les grands yeux et elle m'a servi. Donc ça a été vraiment ma grande déconfiture par rapport à la langue. D'autant que j'étais arrivé en France à l'invitation de Radio France Internationale pour un concours qui me primait pour une nouvelle en langue française. Donc, vous voyez, c'était ça un peu mon grand choc, mon premier grand choc avec la langue française.
Alors, moi, ce que je voulais que tu me dises, Noël, est-ce qu'il y a un mot dans la langue française que tu aimes pour sa musicalité, ou celui qui te paraît, il est un mot magique pour toi dans la langue française?
Alors, il y a un mot effectivement que j'aime pour, pas seulement pour sa musicalité, mais pour son sens. Et ça, c'est quelque chose peut-être qui me vient de mon éducation tchadienne. Mon éducation subsaharienne, c'est le mot partagé. Partager, tout simplement. Voilà, partager, c'est un mot qui est qui est très important dans l'univers subsaharien. Ça cristallise une des valeurs, je dirais, fondamentales de l'homme subsaharien, qui est celui de vivre dans un océan, je dirais, de solidarité.
Ouais, c'est un très beau mot à choisir aujourd'hui, puisqu'on est quand même dans le partage de perspectives différentes de chacun d'entre vous, et que l'idée de la francophonie, on l'espère, c'est d'évoluer vers un partage sans hiérarchie, parce qu'en fait, ce que vous décrivez de votre expérience à ce bureau de poste, c'est une espèce de hiérarchie du français, et peut-être de considérer qu'un certain accent peut dévaloriser le français, alors qu'il n'en est rien, et que vous maîtrisez le français, probablement le maîtrisiez à l'époque aussi mieux que la plupart des Français dans la métropole. Donc c'est un très beau mot pour finir cette séquence. On vous remercie chaleureusement d'être passé au studio virtuel de Bouche à Oreille. Un grand merci à nos trois invités, un grand merci à Pierre également de les avoir réunis. On vous souhaite une très bonne continuation et on a hâte de lire vos écrits et de suivre les éditions également.